Au-dessus de deux minutes.
Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Du bon le matin. Au-dessus de deux minutes.
Débutons avec les trois femmes qui ont été arrêtées en lien avec des séquestrations ou une séquestration en fait survenue à Saint-Zacharie la semaine dernière. Les trois co-accusés ont retrouvé leur liberté. On parle ici de Valérie Grenier, Kim Rancourt et Kim Deblois. Ne peuvent pas communiquer entre elles, ne peuvent pas se retrouver près de la victime potentielle. Maintenant, pour ce qui est du reste...
Ils restent à Saint-Zacharie. Tu veux dire, en restant à Saint-Zacharie, ils se retrouvent proches les unes des autres.
Là, je comprends, donc, ils ont probablement l'obligation de se trouver ailleurs que Saint-Zacharie.
Mmh, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça veut dire que tu as le droit d'être chez vous, mais pas à l'épicerie en même temps. Mais il n'y a pas d'épicerie à Saint-Zacharie.
Donc, c'est une espèce
donc,
de zone
t'as le droit d'être chez vous.
Ton domicile est une zone protégée, disons?
Oui, souvent, ça va être ça. Mettons que tu vas avoir une interdiction de contact, mettons, à 1000 mètres de quelqu'un. Mais si tu habites dans le même bloc, mettons, j'exagère un peu,
ben,
on comprend que le 1000 mètres ne peut pas être respecté, mais aussitôt que tu sors de chez vous, le 1000 mètres s'applique. Tu comprends? Okay. C'est des fois difficile à réaliser. Il faut s'adapter à chaque fois. Mais je me souviendrai d'une femme qui avait été victime de violence conjugale terrible. Puis le gars, il comparaissait devant le juge. Puis... là, il savait pas s'il allait le remettre en liberté. Puis là, il fait venir la femme à la barre. Elle dit, ben là, c'est moi qui ai les clés du pick-up. Puis il vivait d'une maison mobile. Pis elle dit, moi, je peux pas aller vivre ailleurs. Là. J'ai pas les moyens. Là. J'ai rien d'autre. Là. Il dit, oui, mais là, comment voulez-vous que je le remette en liberté? Je vous dis que vous pouvez pas être en contact. Fait que vous êtes pas capable de vous trouver une place où rester. Elle, ça fait des années de ça. Puis la femme a dit, non, j'ai rien d'autre. Puis elle dit, je peux même pas ramener le pick-up. Je chauffe pas. Fait que... Tu sais, des fois, la misère humaine, là, et dans certains secteurs, comme ça.
Maintenant, pour ce qui est des temps d'attente dans les hôpitaux, la durée moyenne de séjour s'est élevée à 17h26. Ça, c'est pour l'ensemble des hôpitaux ici au Québec. Si on regarde le bulletin pour la région de Québec et la région de Chaudière-Appalaches, c'est quand même un peu différent, là. La durée moyenne de séjour dans la capitale nationale, c'est 14,7 heures. Chaudière-Appalaches, 15,1. Donc, on est en deçà de la moyenne provinciale. Mais il y a des endroits où ça a explosé. Dans les Laurentides, la moyenne d'attente est à 22h30 lorsque vous retrouver à l'urgence. Et je termine avec ici, dans la région de Québec, la marmotta. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je suis un gars de Cap-Rouge et je ne savais pas que ça existait. Mais c'est relativement récent. Je dis relativement parce que c'est une quinzaine d'années. Là. Depuis 2009, il y a des citoyens qui ont aménagé un boisé à Cap-Rouge dans lequel il y a une piste de vélo de montagne, donc dans laquelle il y a des sauts et tout ça. Et là, la Ville de Québec, qui est propriétaire du terrain, a ordonné le démantèlement de ces installations-là qui sont organisées de façon non officielle. Disons ça comme ça. Il y a des sauts, des modules, des structures et tout ça.
Ouais, mais des sauts, des modules, je les ai vus, là. Je l'ai vu, la piste, hier, ça a été fait...
À la main.
À la main, mais pas... Tu sais, il n'y a pas de module là, comme dans un skatepark, là.
Non,
c'est de la terre qu'on a déplacée. Tu vois les gars prendre la terre, puis ils font des courbes avec du banking, là, je sais pas comment on appelle ça là, en français.
Avec
mais
de l'inclinaison.
Il y a de l'inclinaison dans des courbes, puis ils ont pris aussi des
troncs d'arbres des sauts.
C'est ça, mais pas rien. C'est pas un parcours olympique, là, mais c'est très beau, c'est très hot. Puis ça semble être une gang de jeunes, ce qu'ils ont fait, c'est très hot, là.
Sauf que la ville a reçu un avis du ministère de l'Environnement qui affirme que la ville doit absolument remettre ce site-là à l'état naturel. L'objectif de la ville à terme, c'est de conserver une vocation récréative, mais moins extrême, dit-on, et plus accessible. La ville qui veut rendre les lieux plus sécuritaires aussi avant qu'il y ait un accident.
C'est terrible. Si, Chaudor en Marchand, comment il s'appelle? Bruno Marchand. Si, à matin, là, premièrement, le maire de Québec, il sauve pas de vie, là, c'est pas un docteur, là. À matin, tasse tes affaires pis règle ça, là. Parce que là, le pire dans tout ça, c'est que le gars qui le boss des sports, qui a commenté cette nouvelle-là à Radio-Canada hier soir, c'est Jean-François Gosselin, qui a toujours dit justement qu'il voulait défendre les sports. Mais là, je te jure que si j'étais son boss, je te le crissais dehors à matin à coups de pied dans le cul. En disant, hey, Gosselin, va vendre des bottes à quincaillerie, fais d'autres choses. Va faire d'autres choses, là. Débarrasse.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit ça. Il dit, on n'a pas le choix. On a reçu un avis du ministère de l'Environnement. Hey, qui mange la marde? On a des jeunes qui font du bicycle à pédale. Ils ont mis des, Ils exigent les casques aux gens qui sont là. Le seul hic, c'est vrai que c'est un terrain de la ville, puis qu'il n'y a pas d'assurance.
C'est ça.
Mais en même temps, il n'y a pas eu de plainte. Il n'y a pas eu d'accident majeur où il n'y a rien eu de... Mais là, là...
L'avis du ministère, c'est parce que c'est un milieu humide, entre autres.
Mais milieu humide... Hey! S'il voudrait qu'on... C'est-tu quoi? Le seul plan qu'il y avait pour ce terrain-là, c'est le garage pour réparer le tramway. C'est là, c'est juste en arrière du IKEA, ça,
ouais,
là.
C'est quand tu sors à Legendre, tu passes par-dessus le viaduc, tu vas tout droit vers le boulevard Chaudière, puis lorsque, ben avant, il n'y avait pas de rue, là. Maintenant, il y a une rue, tu peux aller tout droit, là. Okay. C'est dans ce nouveau,
ouais, c'est
nouveau quartier-là, là. Je dis nouveau, entre guillemets, mais, parce que c'est pas d'hier, là. Mais,
la journée où ils vont vendre les terrains puis qu'ils vont construire le garage de tramway, OK, on va la défaire, la piste, là. Je dis on. Et... Mais là, aujourd'hui,
tu
là.
T'iras pas, toi.
Pouvez-vous le sacrer patience? Avec des jeunes qui taponnent dehors, puis qui font, j'en reviens pas. Je te le dis, puis j'ai toujours su que Jeff Gosselin, c'était pas un vrai. Puis hier, là, il m'a montré exactement le visage du fauné qu'il est, en ne défendant pas les jeunes, puis le sport, en disant, OK, on va parler au ministère de l'Environnement, puis s'il faut monter à François Legault, là, on va lui dire, slacker d'un tour, là. Ou bien, on paiera les amendes, ou bien... Puis, au niveau des assurances... Est-ce qu'on pourrait pas y aller d'une enseigne disant qu'on n'est pas responsable des accidents ou de quoi que ce soit? Je comprends que c'est pas toujours évident de ce côté-là, mais tu sais, oui, c'est un sport un peu, j'allais dire, extrême, je n'aime même pas le mot là pour ça. Là. Puis c'est vraiment hot ce que les jeunes ils font là. J'en reviens pas. Vous voulez les enfermer dans la maison puis qu'ils fassent du gaming? Ben allez-y, gang d'épais. Jeff Gosselin, là, tu dois avoir honte à matin. Je dis, j'ai failli l'appeler. Hier soir, moi-même, pour lui dire, « Hey, vas-tu? Prends tes pelules là, fais quelque chose. » Voyons donc. Hey, mais par exemple, ah, on va prendre de l'argent de la ville, puis on va faire une piquerie. À Capouin, c'est ça qu'on va faire. Sur le site, on va le démanteler, puis on va construire une piquerie pour que les jeunes puissent se piquer de façon sécuritaire avec des aiguilles propres pour s'injecter de la drogue. C'est ça qu'on va faire, ouais. Jeff, regarde ça, je viens de la trouver, l'idée. On va bâtir une piquerie à la place. Ça va être supervisé, ça va être sécuritaire. Il y aura pas de danger. Puis on va pouvoir s'injecter toutes les drogues que l'on veut de notre choix. OK?
C'est-tu fourni sur place, Stéphane?
La ville va débloquer un budget, j'imagine. Là, on demandera à M. Gosselin. Là, donc,
d'après moi, s'ils font un garage, ça va déplacer des milieux humides, ça aussi, non?
Ben, j'imagine. Hein? Mais tout ce secteur-là, vous savez que c'est le point de départ du plan initial du départ du tramway.
On termine ce genre, oui.
Donc, on remplace la piste de vélo de montagne par une piquerie supervisée. voilà la décision de Jean-François Gosselin et des autres épais qui sont élus dans cette ville-là. Fait que c'est incroyable. Puis le ministère de l'Environnement, tu sais, en même temps, François Legault, un matin, là, lui aussi, il pourrait tasser toutes ses affaires, puis dire, appelle-moi donc le ministre de l'Environnement que j'y jase ça deux minutes. Hey, il doit y avoir d'autres terrains contaminés, d'autres entreprises ou whatever quoi, qui enfreint des règles de l'environnement, comme des millions de litres de caca déversés dans le fleuve. Il doit avoir bien des affaires, des usines de... Tu sais, je vous parlais des usines de traitement des eaux. Mm-hmm. Le nombre de municipalités qui ont des problèmes actuellement et qui sont pas capables de traiter les eaux usées de leurs citoyens. Fait que, tu sais, quand tu dis, là... Puis, comment le ministère de l'Environnement, c'est ça sort pas des bureaux. Tu sais, il ne veut pas me dire qu'un fonctionnaire, ça sort d'un bureau. Là. Comment le ministère de l'Environnement arrive à émettre un avis sur la non-conformité des milieux humides, là. Comment c'est arrivé, là? C'est qui a dit, mais allez marcher ça, ce bois-là, moi? C'est qui, ça? On le sent pas, hein? Jeff Gosselin ne saura pas non plus. Pauvre, lui, il fait pitié. Fait pitié, la ville de Québec, là-dessus. Tu sais, c'est une niaiserie, c'est une banalité. Mais ça démontre l'illogisme. Et le gros bon sens, là, ils l'ont pas, ça. Jeff Gosselin, on le savait qu'il l'avait pas, là. Mais de là, ça, c'est un summum aujourd'hui, là. D'une niaiserie. Je ne sais pas combien de jeunes et de moins jeunes utilisent cet endroit-là.
125, à peu près.
C'est très peu de monde, là. Tu sais, c'est pas, je dis pas si il y avait trop de monde puis qu'il y avait des voitures qui débordaient puis que la moitié du parking du IKEA serait pris par les gens qui vont là. Tu sais, je comprends, là. Que si ça avait... Mais là, c'est pas le cas, là. Ils partent avec le petit bicycle, Puis ils vont faire. Puis les jeunes, ils se sont mis des one-way pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Tu sais, parce qu'il y en a qui peuvent vouloir monter en bicycle à pédale. Ça, je la comprends pas, mais. Fait que descendre, la comprends. Mais j'en viens pas. C'est une vraie honte. C'est une vraie honte. Mais c'est ça, la ville de Québec maintenant. Dan.
La vraie saison dans la LNH est débutée depuis samedi. 6 des 8 séries première ronde sont amorcées. Les deux autres, ce sera ce soir pour Vegas, Dallas et Los Angeles, Edmonton. Donc, l'équipe de Patrick Roy, les Islanders, ils ont perdu 3-1, un match sans histoire samedi après-midi contre les Hurricanes de la Caroline. Mais en soirée, il y a une belle histoire. C'est l'histoire des Bruins de Boston qui continuent leur mission d'être la bête noire des Leafs de Toronto. Jeremy Swayman a été excellent. Les Leafs ont essayé, mais ça n'a pas fait. Victoire de Boston 5-1 sur Toronto. Deuxième match de cette série-là, c'est ce soir. Dans un festival totalement offensif hier, l'Avalanche s'est inclinée 7-6 à Winnipeg. Si dans votre poule des séries, vous avez Kyle Connor, Mark Scheifele ou Kyle Makar de l'Avalanche, ben vous avez fait 3 points. Les trois joueurs ont amassé 3 points chacun dans ce match-là.
Toi, t'en as aucun de ceux-là, de ce que je comprends?
Non, c'est ce soir, notre poule. On l'a pas fait encore.
OK.
Mais j'ai des poules de saison où on a des séries éliminatoires, mais en effet, je n'ai pas aucun des trois joueurs mentionnés. T'as fait une bonne lecture. Et en fin de soirée, les Canucks ont vaincu les Prédateurs de Nashville 4-2. Dakota Joshua a marqué 2 buts, dont le but gagnant pour Vancouver. Au hockey junior, le Carré d'As est maintenant connu parce qu'en fin de semaine, Victoriaville a éliminé Rouyn-Noranda alors que Drummondville faisait la même chose avec le Phoenix de Sherbrooke. Les deux clubs vont d'ailleurs s'affronter en demi-finale. L'autre demi-finale dans la LHMQ va opposer Cap-Breton à la meilleure équipe en saison, le Drakkar de Bécomo. Au hockey junior 3, Montmagny l'emporte hier 3-1 devant ses partisans pour prendre les devants 3-2 dans la finale 4-7. Et dans la Ligue nord-américaine, Thetford a éliminé Jonquière en prolongation au match numéro 6 vendredi soir. Okay. Résultat, ils vont affronter Rivière-du-Loup en grande finale. Au baseball majeur, Shohei Ohtani a frappé un 176e coup de circuit en carrière. Il surpasse donc l'ancien voltigeur des Yankees, Hideki Matsui, pour le plus grand nombre de coups de circuit frappés par un joueur d'origine japonaise dans le baseball majeur.
Il avait gagé.
Oui, il avait gagé.
Tu sais ce qui est drôle, c'est que tu sais pour frapper près de 200 circuits, là, ça veut dire que tu as joué un bout dans le baseball majeur.
Ouais, mais lui, non. Il vient d'arriver.
Ouais, lui, il vient d'arriver. Mais dans les deux cas, il parle pas anglais. C'est lui un interprète, puis j'avais vu Hideki Matsui, et parce que lui, il appelle tête. Hideki Matsui des Yankees, il avait le numéro 55, je ne me trompe pas.
Ouais.
À la pratique au bâton, là, c'était... Il allait pas là pour pratiquer le bâton, lui. Il allait là pour la sacrer l'autre bord. C'était terrible. Hey, ça putouf, c'était du bord-là. C'était... Puis, il était tellement impressionnant, là, que, mettons, il disait, OK, les trois premiers, je vais frapper... Je la repousse au champ opposé. Je la pousse au champ opposé. Elle sortait, là. Au bord de la clôture. Poutouf. Après ça, il dit, on va y aller au champ centre. Poutouf. Après ça, on va dire, on va y aller de mon bord. Puis pouf.
Ouais.
C'était terrible. C'était terrible comme il était bon.
Mais Nico, étais-tu ironique en lançant un clin d'œil à Ohtani comme quoi il avait gagé?
Ben oui, évidemment.
Non, mais est-ce que tu penses que lui a gagé ou tu mets la faute sur l'interprète? Parce que le verdict est sorti aux États-Unis.
Oui, c'est l'interprète qui a été trouvé coupable.
Pas à peu près, à part de ça.
C'est le vraiment
détournement
lui,
de fond.
Ah,
ouais, 16 millions au total.
OK, fait que c'est sérieux.
C'est pas 25 piastres à mise au jeu.
Non, non. Ben, tu sais, moi, j'ai vu un gars en fin de semaine gager 200 piastres. La troisième période commence entre les Islanders et...
La Caroline.
Ouais. Puis là, c'est 1-1. Puis les Islanders, ils ont quand même... Ils travaillaient fort.
Oui.
Puis là, tu sais...
Ils n'ont pas se proche aussi.
Puis l'upset est... Ouais. Fait que le gars en question, il a dit, ah, j'y vais. Puis moi, il y a un de mes fils, ça l'intéresse tout le temps. Puis il regarde ça, puis il jose avec.
Il a gagé sur les
200 piastres sur les Islanders.
Parce que la cote était meilleure, parce qu'ils étaient négligés.
Ils étaient négligés pas à peu près. Puis là, il dit, rendu là dans le match, là, il dit, c'est vraiment, les chances sont bonnes.
Fait qu'il
fait... Il fait send, ouais, pour rien que... Il fait send, genre, 20 secondes après, t'es le but!
Non, 2-1 Caroline.
Oui.
Ah, non.
Qui a eu surpris le soir parce que Boston a gagné, fait que c'était bien correct.
On vient de nous envoyer.
Oui.
Il y a une pétition qui existe pour la Marmota Trail.
Oui.
Ça fait combien de temps que c'est là, cette piste-là?
Mais il y a dit 15 ans tantôt, ça me surprenait.
Exact, 2009.
OK.
Exact. On dit que c'est les plus gros jumps du Québec, fait 100% à main. Que ça a une réputation mondiale. Je ne sais pas s'il exagère ou pas. C'est ce que le texte de la pétition dit. Donc, c'est sur change.org, chercher Marmota Trails. Puis, si vous voulez signer la pétition, qui est à 6813 signatures avec un objectif de 7500.
Allez-y, vraiment, parce que sinon, on va construire une piquerie.
Mais 15 ans, c'est quoi l'urgence, là?
Ah, c'est...
Ouais, il y avait pas de milieu humide en 2009,
ah, Nico? Ouais, c'était pas humide. Ouais.
C'était humide partout en 2009.
Ah, bâtisse. Hey!
Tu veux qu'on fasse une météo, j'imagine?
Ah oui, c'est ça, ma job. je vous dire, ben, au moins les deux prochaines journées, on devrait être pas si pire. Demain, entre autres, le mercure va dépasser des seuils fort intéressants. Avec 17 degrés en fin d'après-midi, demain.
Ah oui, l'été revient, ben, le printemps.
Non, mais ça revient rien qu'une shot. Ah. Parce que tu vas être ramassé dans... Tu vas être dans le moins... tu vas être dans le moins pas tard après. Là,
oui. Dans 8 jours, c'est l'été, là. Calmez-vous, ça s'en vient, là, les 15-15. Ouais.
Steph aime pas ça aller sur le long terme, Nico, mais profite-en demain après-midi, parce qu'après ça, tu vas sortir ta tuque.
Ouais, c'est ça, on retombe un peu dans les valeurs négatives. Demain après-midi, c'est parce que c'est l'arrivée d'un système avec une masse d'air chaude importante. Fait que c'est pour ça que demain, 10h, il va faire 10. OK, déjà. Demain midi, 13, 16, à peu près toute l'après-midi.
17h, il va faire 17.
17, oui. C'est ça. Comment tu sais ça,
Ben, 10h10, puis 17h17.
Fait que, il y a de la pluie qui arrive avec ce système-là.
Oui, évidemment.
En soirée, mardi, et pour la journée de mercredi. Sinon, retour du soleil pour jeudi et vendredi. Donc, voilà.
As-tu deux minutes?
Présenté par les orthésistes du pied de Québec. Vous avez de l'inconfort aux pieds, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du pied de Québec. 375 rue Soumande et piedquebec.com.
Ben, c'est ça.
Et je vous rappelle que cette semaine, dans Dupont le matin, c'est un tabarouette de beaux cadeaux. Un trailer Maxi-Roule, c'est une compagnie québécoise. C'est un heavy duty. C'est les trailers utilitaires galvanisés que vous voyez là, à peu près partout. Tout le monde qui a un trailer pour transporter son skidoo, son VTT, whatever, sur un chantier. C'est des Maxi-Roule. Ça vaut 6 000$. J'en donne un vendredi. Vous compris? Je donne un trailer vendredi. Il faut texter le mot du jour pour vous qualifier. Et aujourd'hui, Karen a choisi le mot piné. Alors, pinez votre trailer, juste pinez au 25226. Et c'est France Paul Pays qui fera la sélection des finalistes jour après jour. Donc, dans Dupont le matin, c'est payant. Un trailer de 6 000$, ça peut être un maudit beau cadeau. Nicolo.
Là, je sais que t'as des voyages de prévu quasiment à tous les mois pour un petit bout.
Ouais.
Est-ce que t'es rendu en octobre?
Non, pas rendu en octobre.
Okay, parce que j'en ai un à te proposer en octobre. Le 19 octobre, qui est un...
Le 19 octobre, cette année, ça va être un samedi.
Voilà. c'est confirmé. Je l'avais devant moi. Je voulais tester Dan.
Ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas comment il y a de la place dans ton cerveau pour ça.
Il y a des rapports. Moi, tout, je suis complètement...
J'ai de la misère à savoir on est quelle date aujourd'hui.
Hey, moi, ça me souvient, je me réveille, je sais pas quelle journée qu'on est. En fin de semaine, je me demandais... Je me suis réveillé, c'était à 5 heures du matin. Samedi ou dimanche? Samedi. Puis je me demandais s'il fallait que je vienne travailler.
Mmh.
Fait que j'ai skippé.
T'as pris une chance, hein?
Oui, j'ai pris une chance.
Cleveland, Ohio.
Oui.
Samedi 19 octobre.
On est là.
C'est la cérémonie d'intronisation au Rock'n'Roll Hall of Fame.
De qui?
C'est ça. On a déterminé, on a annoncé hier qui serait intronisé. Il y en a 18, il y en a 5 qui font du rock.
OK.
C'est le Rock'n'Roll Hall of Fame, mais il y en a 5. Mais parmi les 5, il y a ton...
AC/DC.
Ozzy.
Ozzy, ah oui, OK.
Et va-tu te rendre?
Ben, c'est ça. Fait que, d'après moi, c'est une des dernières fois qu'on va le voir sur une scène.
Il est pas mort, là. Arrête.
Non, mais il est pas fort. Non plus. Mais ça fait longtemps qu'il est pas fort, disons. Ouais. Mais là, ça semble pire depuis un bout. Fait que ça va être remis ce 19 octobre.
Parce que j'ai repartagé ma photo avec Ozzy au Colisée.
Ouais.
Ça faisait-tu 10 ans? Hey, moi, je repartage jamais des anciens posts, là. Tu sais, les genres de souvenirs, là.
C'était au Colisée?
C'était au Colisée. Oh, oui. C'est la fois que j'avais vu des rats. Moi, je n'avais jamais vu qu'on entendait cette histoire-là.
Ben, c'était pour le show à Ozzy qu'il y avait des rats.
Probablement, où il avait entendu la pratique. Les rats avaient décidé de sacrer le camp.
J'ai envie de te dire deuxième moitié 2000.
Ouais, je le sais pas. J'ai publié ça quand je l'ai rencontré cette journée-là. Là, c'était le premier gars à qui je donnais la main qui avait des faux ongles. Fait que je m'en souviens encore.
Il y avait des faux ongles ou du vernis à ongles?
Ben, je sais pas, un ou l'autre, mais il y avait les ongles noirs. Fait que, si t'as pas donné de coup de marteau dessus.
Ouais, ben.
Il avait pas changé un moteur avant.
D'après moi, il y a des gars qui étudient d'habitude qui ont des ongles noirs aussi. Là.
pour à cause qu'ils sont pas propres.
Ah oui.
Ah, ils travaillent un peu chier. Mais non.
Je veux dire qu'ils travaillent de leurs mains.
Mais Ozzy.
C'est peut-être 2014 aussi. C'est peut-être la tournée de 2014.
Ah ben c'est ça ferait 10 ans.
C'est ça.
Ah oui. C'est ça. Il me semble qu'il y avait un anniversaire précis pour que je republie quelque chose là. C'est vraiment ça devait être ça. Je vais aller voir vite.
Ozzy a 75, mais c'est un 75 assez intense, hein, pareil.
Ah, ouais. 75 US.
Oui. Puis le pire c'est quand il marche. Je l'ai ici. C'était le 7 avril 2014 que j'ai pris la photo.
Fait que presque 10 ans jour pour jour.
Ouais, c'est ça. Fait que il s'en venait dans le corridor, là. On l'attendait ou la Zamboni. Puis là, il s'en venait dans le corridor, puis il était comme la tour de Pise. Il marche penché. Sérieusement? Tu sais, il est penché, mais jusqu'en bas. Tu sais, il est pas le dos croche, il est penché. Il marchait de côté. Ah, c'était vraiment... Puis là, tu sais, moi, c'était la première fois que je rencontrais un artiste de ce niveau-là. Et de voir toutes les règles. Tu sais, on pouvait pas faire signer ce qu'on voulait, là. Tu sais, il y a un gars qui avait emmené un micro,
C'était Black Sabbath, hein? C'était pas Ozzy tout seul. Ça se peut-tu?
C'est écrit Black Sabbath au-dessus, mais il me semble que c'est un show d'Ozzy. Je m'en souviens pas, là. Okay.
Lui non plus.
Je m'en souviens pas, c'est sûr. Hey, puis ça coûtait 1000$, OK, pour rencontrer Ozzy.
T'as payé le meet and greet?
Non, je l'ai pas payé.
Ah, OK.
Mais ça coûtait 1000$. Non, mais j'ai parlé au monde qui était là. Okay. Parce que c'est la première fois qu'il m'invitait. Fait que, et il y avait un gars avec sa femme de Toronto qui avait payé chacun 1000$.
Ouais.
Il était venu avec leur jet privé, OK, pour rencontrer Ozzy. Eux autres, là, à chaque jour qu'il est en show, ils vont y parler. Mais ils payent 1000$ à chaque fois.
Ah, c'est bon.
Mais il reste pas au show. Tu sais, comme là, 1000$, ça inclut, c'est ça, tu rencontres l'artiste, tu prends des photos et tu as un billet dans les trois premières rangées du parterre. C'est ça le deal.
Ouais.
Et eux, ils étaient venus avec leur avion, sont venus au Colisée, ils y avaient parlé la veille ou l'avant-veille. Ils étaient en show à Montréal, ils y avaient été. Ils étaient retournés chez eux, sont venus à Québec, ils ont jasé un peu avec, pis tu vois qu'ils connaissaient, là. Mais à chaque fois, ils payent 1000$ pareil. Pis là, ils jasent un peu. Fait que les autres, ils prennent même pas de photos, là. Je veux dire, pis ils restent pas au show. Ils rembarquent dans l'avion, pis ils retournent chez eux. C'était fucké, vrai. Oh, oui. Des méchants weirdos.
Wow. Fait qu'à part, parce que c'est une soirée qui est le fun, il y a toujours des artistes qui viennent présenter des artistes. Souvent, ils vont avoir une prestation, soit le groupe ou l'artiste qui est en nomination, ou des fois, c'est justement l'artiste qui les a présentés, puis l'artiste qui est nominé, en fait, qui est intronisé, qui font une prestation ensemble. Fait que ça donne toujours des moments musicaux qui sont intéressants. Mm-hmm. Il y aura Ozzy, il y aura aussi Dave Matthews Band, il y aura Foreigner,
okay.
Il y aura Peter Frampton.
C'est Foreigner.
Foreigner, excusez-moi, j'ai oublié que j'étais à Vanier à cette heure. Il y aura, que vous connaissez, Cher. On okay. pourra partir pendant Cher.
Elle est en pièce détachée ou...
Cool and the Gang.
C'est toutes des bandes de notre époque, ça.
Dionne Warwick, A Tribe Called Quest, MC5, John Mayall, Mary J. Blige et Jimmy Buffett. Mais il est mort, Jimmy Buffett.
Fait que...
Il sera pas là.
Ça prend des billets, j'imagine?
Oui.
Ils sont en vente?
Je sais pas, je vais regarder.
Ajoute des billets, on va y aller. Ah oui. OK, mais...
C'est un samedi, en plus, on a le temps de revenir.
Ben oui, on a le temps de revenir. Tu vas conduire, par exemple?
Cleveland, on va dans notre...
Ah, moi, je prends l'avion de moins en moins, là. Faut que ça soit loin. Ah, c'est trop long. C'est trop long, je suis découragé. C'est trop long, c'est trop long. C'est sûr que quand il faut ça prend un bateau, ben là, OK, je vais prendre l'avion, là, parce que le bateau, c'est pas plus court.
C'est bon.
Ouais.
Mais, non, mais c'est vrai, tu sais...
C'est les retards qui te font dire que c'est long? Ou c'est le fait qu'il faut que tu arrives 3 heures avant, c'est passer ça. La sécurité?
C'est la sécurité et tous les délais reliés avec ça. Premièrement, de Québec, il n'y a pas un vol direct. T'sais, on va aller rien qu'à Cleveland, là.
Il y en avait un dans le temps.
Je parlais... Oui, oui, je le sais. Il y en a déjà eu, là. L'aéroport de Québec a déjà été plus vivant qu'elle a, là. Oui. Venez pas me dire que ça va bien. Ça va pas bien. Mais eux autres, ils se disent que ça va bien. Fait que ils l'amélioreront pas. Ils trouvent que ça va bien. T'sais, quand tu sais, un jour, si je me trouve bon à la radio, ça va dire que je suis sur le déclin en joie le vert. Ça, ça va dire ça. Je suis peut-être déjà sur le déclin, mais je me trouve pas bon encore. Mais... Ah, les gars, c'est ça pour dire que... tu sais... J'ai des amis, là, je l'ai compté, me semble, l'autre jour. 2 adultes, 2 enfants. Athènes, à Santorini, ça coûte 500$. Mm-hmm. Un vol du Nord et quelques. Tu sais, ici, aller à Cleveland, là, ça serait pas cher, là. Sauf que ça existe pas. Il y a peut-être pas de demande pour ça.
Québec, Ottawa, Ottawa, Toronto, Toronto, Détroit, Détroit, Cleveland.
Ouais, ça serait ça, à peu près.
Là, ça serait abordable.
Ouais. Mais là, dans
c'est 12 heures de route.
C'est 12 heures de route, aller à Cleveland. Ouais. T'es allé?
Absolument.
OK. Ouais. Voir du baseball?
Voir du baseball en série contre les Red Sox.
OK.
C'était vraiment, il y avait une frénésie dans la ville, comme j'ai rarement vu, parce que les Indians, cette année-là, c'était l'automne 2007.
OK.
Et les Indians menaient 3-1 dans la série contre les Red Sox.
Guerrero jouait-tu pour les Indiens? Vladimir?
Pas pour les Indiens, certains.
Il jouait pour qui, Vladimir, après les Expos?
Avec Baltimore.
Ouais, Baltimore, les Angels aussi. La grosse place où il a fait après, c'est les Angels.
OK, bon, moi, c'était contre les Angels, d'abord. Il était visiteur à Cleveland quand j'étais allé. C'est dans ces années-là que je suis allé aussi.
Mais moi, Steph, on est là, c'est 3-1. Là, je te dis, la ville est animée, là. Les gens, ils trippent. S'ils battent les Red Sox le soir qu'on est là, ils s'en vont en série mondiale.
OK.
OK? Fait que là, la game où on était présent, ça a fini 7-0 Boston.
Oups.
Okay. Et cette année-là, Boston a gagné la série mondiale.
OK.
Tu comprends-tu que Cleveland, ils n'ont pas gagné une dans la série, là?
Ça s'est nettoyé. Hein?
Après la game, c'était moins hot.
Ah, ouais. Moi, j'avais aimé ça quand j'étais arrivé à Cleveland. Là, j'étais en moto. Cette fois-là, j'étais tout seul. Puis, je vois une affiche, là, comme des affiches avec ma belle face que sur le bord des autoroutes. Mm-hmm. Là. Les autres, c'était écrit « Ramenez-nous une équipe de la NFL. » Mais tu sais, ils se l'ont jamais fait enlever, ouais, mais c'était tellement mauvaise. Ouais. J'avais trouvé ça drôle, ça m'avait très marqué. Bon. Ouais. Fait que c'est le fun, entre le terrain de baseball, l'aréna qui est en face, t'as la petite rue là des bars qui descend vers le centre-ville. Là. C'est hot, ça, des bars de jazz, de toutes sortes de musique. Là. C'est vraiment un endroit le fun.
Ça, c'était notre premier arrêt. OK, la game de baseball.
Oui.
Le lendemain, on s'en allait voir les Blackhawks à Chicago contre l'Avalanche.
OK.
OK. Après ça, le samedi, on s'en allait voir à l'Université Notre-Dame les Fighting Irish de l'Université Notre-Dame aux États-Unis.
Mm-hmm.
OK. Puis le dimanche, en revenant, on arrêtait à Détroit. C'était 4 événements sportifs en 4 jours dans 4 États différents. Avec mon chum Claude de Montréal, puis moi, on avait fait ça à l'automne 2007.
Qu'est-ce que c'est malade,
un
ça?
Un méchant beau trip de sport.
Ah oui, c'est le fun. Ouais. Moi, je mélange la musique avec ça à Star maintenant.
OK.
J'aime ça faire un peu tout. Pourquoi tu ris, toi? C'est quoi? Non, mais c'est vrai, j'aime ça voir des shows de musique.
Oh, il y a un été où est-ce qu'on aurait pu te faire un t-shirt de tournée tellement que t'as vu de show?
Ouais, mais je m'étais fait un écriteau, là. Tu sais, ça a commencé avec Lady Gaga, après ça, les Orioles à Baltimore, après ça, j'avais vu, là, du 3A à Rochester, après ça, Metallica à Buffalo, après ça, Motley Crue, Def Leppard, Poison à Pittsburgh. Après ça, les Steelers à Pittsburgh.
Est-ce que c'est un voyage de moto seul?
Seul, oui, okay. Tout seul.
Qu'est-ce qui est le plus le fun ou le moins dol? Assister à un spectacle seul ou à un événement sportif?
Ben moi, je suis bien tout seul. Non, je pourrais pas me payer des aussi bons billets si je n'étais pas tout seul. Ça, c'est le problème. Tu sais, Lady Gaga, là, tu sais, j'ai peut-être payé, je me souviens pas, j'avais pas payé si cher que ça, là, 100 ou 150 US, là, genre, j'étais très en bas, là.
Okay.
Mais parce que j'étais tout seul, tu sais, c'était malade. Si avoir été deux, c'était 400 pièces chaque, là, tu sais, c'était très difficile d'avoir des billets. Fait que moi, je suis bien... Tu sais, comme aux Steelers, là, il y a des Québécois qui étaient là parce que c'était leur équipe également, puis ils sont venus me parler. Pis, puis ça, c'est la fois la plus marquante où, tu sais, j'étais passé à ma place. Là, j'ai acheté un billet. C'est une game hors concours des Steelers contre les Seahawks de Seattle. Okay. Puis je suis assis dans les estrades, puis je m'aperçois que les deux familles à côté de moi, deux couples assez âgés, ils sont un peu... sont stressés. Ils sont sur ce qu'ils vivent, puis ils arrêtent pas de regarder le banc des Seahawks de Seattle, puis fait que là, à un moment donné, puis là, ils me parlent, là, ça me tente pas. Honnêtement, j'aime ça pas parler à personne, des fois.
Okay.
Fait que, et là, ils voient que j'ai un accent.
Ouais.
Fait que, tu viens d'où? Puis là, je viens du Québec. Ah ouais, les autres, eux, ils venaient du fin fond du Texas pour cette game-là, une game hors concours des Seahawks. Mais là, je dis, c'est qui fait le titre, nous autres. Ah, il dit, on a un drone tout le long, puis on s'est emmené ici. Il dit, lui, là, le 57, là, c'est mon gars.
Wow.
Il jouait à Notre-Dame, je pense, la saison d'avant. Puis il dit ça, mais c'est un peu, wow, c'était pas wow.
Non?
Non, ça n'a pas été wow. Il a pas embarqué pas une fois. Pas une fois. Ah. Je te dis, là, la mère, elle a pleuré à un moment donné. C'était pas beau. Là. Je vivais le malaise avec eux. Ils rêvaient de voir leur fils jouer dans la NFL. Il semble y avoir eu une belle carrière universitaire. Puis là, tu voyais, là, j'arrêtais pas de le regarder, Moutou. Puis, il voulait tellement embarquer, c'est un joueur de ligne, il voulait embarquer. Des fois, là, il allait se placer debout à côté du coordonnateur, puis il mettait son casque en disant, « Hey, bon, allez, je suis prêt. »
Je suis prêt, je veux jouer. Aller aujourd'hui, ouais.
Pas jouer, pas faire une présence sur le terrain. Game hors concours. Mais Pete Carroll, c'est quand même un coach particulier. Fait que c'est quand le draft de la NFL, ça s'en vient, d'ailleurs?
C'est là, là.
C'est là,
c'est
là.
Cette semaine.
Ah, c'est ça, OK. Oui. Jeudi.
Absolument.
OK.
C'est les rondes. Ah, comment ça marche, eux autres?
Moi, je sais pas.
Un, après ça, 2-3, puis 4-7 le samedi.
OK.
Ça va être jeudi, vendredi, samedi.
Bon. Fait que ça va être la ronde 1 est le fun, après ça.
Quoi?
Fait que, OK. Alors, on s'arrête, nos invités sont-ils arrivés? Oui, je pense. Si on ne sait pas, on va.
Oui.
Oui, ils sont là. Donc, on s'arrête quelques instants et on s'en va aux Jeux Olympiques après.
Dupont. C'est une légende.
Légende.
Dupont. C'est un raconteur.
Raconteur.
Dupont le matin. Avec Stéphane Dupont. Hey, Dupont. Bon matin, Dupont. Dupont le matin. Avec Stéphane Dupont.
On est de retour dans Dupont le matin, ce lundi 22 avril. C'est pas demain, mais c'est quand même bientôt les Jeux olympiques de Paris qui seront présentés au cœur de l'été et qui seront suivis des Paralympiques ensuite. C'est toujours des moments importants et c'est des vies qui sont dédiées au complet à la pratique d'un sport et trop souvent des sports que l'on ne voit que lors des Olympiques, entre autres en télé, à la télé. Voilà pourquoi c'est ça prend de la persévérance pour que ça, évidemment, pour en arriver à atteindre les objectifs que l'on se fixe. Notre invité, ben, il est en route vers Paris, mais c'est pas tout à fait complété, car dans son sport, soit la natation, les essais sont pas les essais olympiques, donc pour les qualifications olympiques, sont pas encore faits, autant pour les Jeux olympiques que les Paralympiques. Mais notre athlète, lui, il est allé aux Olympiques. En 2016, il est revenu avec la médaille de bronze. En 2020, il est revenu avec l'argent aux 100 mètres d'eau. Et là, on s'en va vers une médaille d'or, peut-être, à Paris. Le paranageur Nicolas Guy Turbide est en studio avec nous. Bonjour Nicolas Guy.
Allô, merci de l'invitation.
Ben, ça fait plaisir parce que tu sais, tu passes, t'es pas en vacances depuis 3 ans, là, puis t'as commencé à te préparer demain pour les essais olympiques. Là.
Non, dans mon cas, les vacances ont duré 2 semaines jusqu'à temps que je me donne l'objectif de peut-être continuer un autre 3 ans. Ça serait un objectif atteignable. Fait que là, les Jeux à Tokyo, ils ont été reportés d'un an à cause de la COVID. Donc, ça fait en sorte que le cycle est un petit peu moins long. Fait que, très honnêtement, ça a passé relativement vite là, entre Tokyo puis aujourd'hui. Là.
OK. Est-ce que c'est clair dans ta tête que c'est la dernière fois?
Ben écoute, il n'y a jamais rien de clair dans la tête d'un athlète jusqu'à temps que les décisions soient prises. Là. Fait que moi, je me suis toujours dit que tant que j'aime ça, aller sur le bord de la piscine, tant que j'aime ça me lever à 6h le matin, tant que j'aime ça faire le travail, je vois pas le problème nécessairement à continuer, même si ça demande quand même un bon temps dans mon horaire, une bonne plage horaire. Tu sais, j'aime encore beaucoup ce que je fais, puis si j'aimais pas ça en ce moment, je serais sorti de la piscine, ça fait longtemps, là, j'aurais passé à d'autres choses.
Donc, c'est pas juste les médailles qui t'attirent vers ça, je veux dire, juste une participation aux Jeux olympiques, juste ça en soi, c'est un accomplissement incroyable.
Ben écoute, moi, mon petit secret d'athlète, que j'essaie de garder pour moi-même parce que c'est un peu ma stratégie quand j'arrive dans une grande compétition, c'est la médaille, c'est bien beau, mais l'objectif, il est un petit peu hors de notre contrôle en pensant que les autres athlètes autour de nous, on n'a aucune idée ce qu'ils vont faire. La seule chose que moi, je suis capable de focusser, c'est sur ma propre performance. Fait que moi, mon seul objectif quand j'arrive dans ces compétitions-là, c'est le self-improvement, le dépassement de moi-même, puis d'améliorer ma performance de l'année précédente. Fait que, en me donnant cet objectif-là, ça fait en sorte que peu importe ce qui arrive au jeu, en sachant que si j'ai donné le meilleur de moi-même, ben peu importe la position que ça te donne, t'es capable de retirer une satisfaction quand même. Tandis que plusieurs athlètes, puis je le vois quand même assez fréquemment, ils vont vouloir vraiment cette médaille-là, vont viser haut, ils vont se mettre cette pression sur eux-mêmes. Puis ben si cet objectif-là y arrive pas, ben c'est comme si tout leur monde s'écroule au complet. Fait que, non, j'aime mieux me dire, gars, la médaille, c'est un potentiel, quelque chose qui peut arriver pour de vrai. Par contre, c'est pas ça l'objectif, c'est pas ça le but du jeu.
Donc, toi, tu te bats pas contre les autres nageurs, mais tu te bats contre ton temps à toi. Tu te fixes des objectifs, tu dois aller dans ça, puis en sachant que tu vas battre ton temps, ben, les chances de médaille vont s'agrandir.
Oui, puis très honnêtement, je suis né avec un handicap visuel, puis mon handicap, je pense, m'a aidé un peu à avoir cette mentalité-là, dans le sens où les autres à côté de moi, je les vois pas tout le temps, même je les vois presque jamais. Fait que j'ai pas le choix vraiment de focusser sur tous mes paramètres, tout ce que moi j'ai besoin de faire pour donner le meilleur de moi-même, puis ça fait en sorte que, ben jusqu'à présent, ça m'a donné des performances que je suis satisfait depuis le début de ma carrière.
Mais Nicolas Guy, est-ce que tu as toujours eu cette pensée-là, ce thinking-là?
Non, ce thinking-là, je pense qu'il a pris plusieurs années avant qu'il se construise puis qu'il y ait une base solide. C'est sûr qu'en tant qu'athlète, quand tu commences, tu sais, si tu vises haut, tu vises grand, tu sais, puis on se fait vendre un peu le principe de la médaille comme la chose à faire, la chose à obtenir, puis tu sais, c'est le fun, tu reviens chez vous avec quelque chose à montrer à ta famille, tes amis, la communauté, mais en même temps, je pense que c'est beaucoup plus grand que ça. Puis des fois, on oublie ou on néglige un peu la performance qui va derrière cette médaille-là. Donc, tu sais, des fois, pour certains, c'est toujours une affaire de comparaison. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, ben, gars, j'ai été aux Jeux olympiques, mais j'ai pas fait de finale », puis ils le sont déçus. Mais il y en a qui vont aller aux Jeux olympiques, qui vont faire une finale, mais qui ont pas fait de podium, ils vont être déçus. Fait que, tu sais, il y a pas de fin vraiment à ce jeu-là. Puis, tu sais, même ceux qui gagnent une médaille d'or, tu sais, on l'a vu avec plusieurs athlètes dans le passé, il y en a, justement, qui reviennent des Jeux, puis après ça, qui cherchent complètement, parce qu'ils sont plus en mesure de se donner un objectif concret. Tandis que, ben, l'objectif que moi, je me donne, il est quasi infini. Tu sais, j'essaie de trouver la perfection dans la façon que je nage sans jamais l'obtenir. Ça fait que si je peux tout le temps continuer.
Mais si c'est des derniers jeux, est-ce que... mais là, tu vas vouloir continuer à nager. T'as passé... depuis quel âge que t'es dans la piscine?
Écoute, j'ai été introduit à la natation à 5-6 ans. J'haïssais ça pour mourir. Dans le fond, moi, j'avais peur... J'avais peur de l'eau, là. C'était vraiment une phobie quand j'étais jeune. Moi, la dernière chose que je voulais faire, c'était d'embarquer dans la piscine. Moi, je voulais jouer au golf comme mes parents, là. Mes parents, c'est deux bons golfeurs. Puis moi, je voulais juste les suivre au golf. Puis, tu sais, vous, veux pas. Moi, j'étais plus limité. Il fallait tout le temps que je joue avec quelqu'un parce que je frappe ma balle puis je vois pas où elle va. Tu sais, mes prises de sensations sont quand même pas pires. Mais j'avais pas le niveau d'indépendance que moi, je voulais de l'activité. Fait que quand j'ai commencé la natation de compétition vers 11-12 ans. C'est là vraiment que j'ai comme senti que mon orgueil puis mon ego de battre l'autre à côté de moi était plus fort que vraiment ma peur que j'avais de la piscine puis du milieu de l'environnement de l'eau. Là. Donc,
mais à ce moment-là, à 11 ans, quand tu commences des compétitions, c'est pas des athlètes handicapés. Là.
Vous non, avez... pas du tout. Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, puis ça l'a pris... mes entraîneurs ont dû pousser quand même beaucoup sur moi puis mes parents pour que j'introduise le sport paralympique parce que moi, je le voyais pas comme quelque chose qui me limitait quand je commençais.
Okay.
Tu sais, c'est au fur et à mesure que tu comprends comment le sport fonctionne que tu vois ton désavantage par rapport aux autres. Tu sais, en natation, tu n'accélères jamais, tu décélères toujours durant ta performance. Fait que moi, mes yeux, la façon qu'ils fonctionnent, c'est ils ont de la difficulté à avoir un focus droit, ils vont avoir de la difficulté avec la lumière. Donc, tous les stimuli comme ça vont faire en sorte que ben ma trajectoire va peut-être pas être aussi droite que les autres athlètes à côté de moi. Puis, vu que c'est exponentiel, dans le fond, ta décélération dans la piscine, mais ça fait en sorte que ton temps, il est exponentiellement moins vite aussi ou il est exponentiellement affecté sur la scène nationale, internationale.
Est-ce que tu te compares des fois avec un athlète régulier en âge? Tu sais, par exemple, le dos est ta spécialité, pas nécessairement?
Ben, dans le fond, dans les dernières années, j'ai eu une décision quand même assez difficile à prendre. J'étais beaucoup blessé au bas du dos, au cou. Puis encore aujourd'hui, il faut que je fasse vraiment plus attention à mon corps que quand j'étais un peu plus jeune. Puis tu sais, c'est une décision que j'ai dû prendre dans la dernière année. C'est que mais pour les Jeux cet été, moi, je vais juste focusser sur une autre épreuve. Pis c'est pas l'épreuve dans laquelle j'ai gagné ma médaille aux Jeux à Rio puis à Tokyo. Tu sais, je vais focusser sur le 50 mètres libre. Là. C'est vraiment un sprint, une vingtaine de secondes, le plus vite qu'on peut, sans respirer. Puis on garde la tête dans l'eau. Puis c'est une shot, pis ça passe, okay. Ça casse. Donc c'est vraiment une décision que j'ai pas eu le choix de prendre pour physiquement pouvoir continuer à compétitionner le plus longtemps possible.
Et c'est quoi l'écart de temps entre ce que tu peux réaliser et ce que, pas le champion du monde là, ou le champion olympique, mais un nageur canadien qui va aux Olympiques, c'est quoi vos écarts de temps?
Ben écoute, j'ai autant mes standards de qualification pour aller aux essais olympiques et paralympiques. C'est la même compétition pour nous au Canada, donc ça va être en mi-mai, du 13 au 19 mai à Toronto. J'ai autant mes standards aux 50 mètres libres du côté paralympique que du côté olympique. Fait que j'ai le droit, en théorie, de nager avec les athlètes qui vont se qualifier aux Olympiques aux 50 mètres libres. parce que mon temps est assez vite du côté générique sans handicap pour nager avec eux. Par contre, tu sais, du niveau international, là, c'est sûr que je te dirais qu'il y a peut-être une seconde et demie à deux secondes là, sur un 50 mètres qu'on voit de différence. On commence à avoir plus de données, plus que de nageurs qui participent dans le sport paralympique. Là, fait qu'on est capable de dire qu'il y a environ une seconde et demie, deux secondes. Okay. Là, qui,
mais t'as-tu envie d'y aller comme athlète régulier?
Ben, c'est pas un objectif qui serait atteignable dans mon cas. T'sais, justement, cette seconde-là, sur une longueur de piscine, c'est énorme. Là. C'est la différence entre quelqu'un comme Usain Bolt qui fait 9,5 à son 100 mètres puis qui fait 10,8, 10,9. Là. Donc, il y a quand même une grosse différence de temps entre les deux pour rendre cet objectif-là atteignable. Par contre, c'est là qu'on voit la nature puis l'importance du côté paralympique aussi de mettre un level playing field, donc un niveau de jeu adéquat pour tous. Ça nous permet justement de, même avec notre handicap, c'est un peu comme au golf, tu sais. Tu vas avoir un handicap au golf. Des fois, tu vas jouer avec un golfeur qui va avoir 2-3 d'handicap, un golfeur qui va avoir 12-13, mais c'est un peu le même principe, la faction, ça fonctionne du côté paralympique. C'est, si t'as deux golfeurs qui jouent le même score, mais qu'il y en a un qui a un handicap plus élevé, mais c'est lui qui va gagner la game. Mais en natation, c'est s'il y a deux nageurs qui touchent au mur, qui font le même temps, mais qu'il y en a un qui a un handicap plus important que l'autre, ben, c'est lui, en théorie, qui va avoir fait la meilleure performance.
Ça a évolué énormément. L'entraînement, j'imagine, pour la natation, je voyais des corridors avec du courant, des nageurs qui pouvaient même s'attacher après le bord pour offrir une résistance. Est-ce que cette évolution-là, tu trouves que ça vous a beaucoup aidé à améliorer vos temps aussi?
Oui, puis surtout dans mon cas, depuis que je focus juste sur le 50 mètres libre, le type d'entraînement est différent. La natation, c'est reconnu pour être un sport plus old school, plus vieille école. Donc, on fait beaucoup de millage. Puis honnêtement, je suis pas contre ça. On va chercher une grosse base aérobique. Par contre, pour ceux qui font des épreuves plus courtes, du 50, du 100 mètres, ben il y a un avantage à exploiter d'autres zones d'intensité. Puis justement, les outils que tu mentionnes, en entraînement, nous, on va souvent utiliser un élastique qu'on va attacher au mur, puis on va nager en résistant de compte, justement pour entraîner des zones qu'on n'est pas capable nécessairement d'aller chercher sans cette résistance-là. Il y a plus d'outils qu'avant, on a plus de données, on est capable de mesurer les forces appliquées dans l'eau plus facilement qu'avant aussi. Puis ça nous donne quand même une bonne perspective sur la performance puis qu'est-ce qu'on peut faire dans l'eau. Donc, avoir ces outils-là, c'est sûr, ça nous aide, mais c'est pas le be-all and all. T'sais, dans le fond, il y a l'entraînement aussi derrière ça. Il n'y a pas juste la donnée.
OK. Donc, c'est l'entraînement, c'est le mécanisme des mouvements de la nage parce que du musculaire, c'est pas nécessairement un outil.
Oui, ben ce que la conception qu'on a de la natation, c'est d'habitude pas la bonne. T'sais, on y va imaginer un enfant de 3 ou 4 ans qui va essayer d'apprendre à nager. Ben son premier instinct, ça va être se battre un peu plus dans l'eau puis essayer de rester à la surface le plus possible. Par contre, notre instinct qui se développe une fois qu'on a développé de la peur environ vers un an et demi, c'est pas le bon instinct justement pour nous faire bien nager. Le muscle, le moment qu'on le contracte, c'est ça qui nous fait caler. Donc, la natation, l'objectif pour bien nager puis nager vite, c'est d'être le plus détendu possible en contractant seulement les bons muscles pour te faire avancer le plus vite possible.
OK.
Fait que c'est les meilleurs là-dedans, c'est drôle, mais c'est les enfants, là, les bébés naissants là, qui vont avoir 4, 5, 6 mois qu'on va les laisser dans la piscine, puis eux, leur facteur peur, il n'est pas encore développé, mais ils vont apprendre à flotter par eux-mêmes, à se sentir confortable, puis justement, ils vont se créer des habitudes qui font en sorte qu'ils vont être plus sécuritaires, plus adéquats dans la piscine, puis ça fait en sorte que, tu sais, moi, je comprends un peu le principe. Ici, à Québec, on a des piscines dans toutes nos cours, à peu près. T'sais, on a la capitale mondiale de la piscine.
Ça n'a pas de bon sens.
De la piscine en terre.
Qui fait le plus frais,
puis, mais... on veut prioriser la sécurité des jeunes puis des moins jeunes aussi dans leur piscine, dans les lacs. On a accès à de l'eau à peu près partout. Puis moi, je pense que ça vient vraiment plus de l'enseignement que de mettre une clôture autour de la piscine. T'sais, c'est bien beau, la clôture, mais si tu donnes l'habileté aux enfants d'un jeune âge de pouvoir se sortir d'une situation où ils peuvent être en sécurité, puis il y a moins de problèmes. Mais tu sais, les Australiens font ça depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Puis culturellement, pour eux, la natation, là, c'est la même chose pour nous que le hockey. Là.
C'est ça, c'est naturel et c'est un automatisme. Ouais. Est-ce que le Canada, parce qu'on a connu quand même de belles années, autant aux Olympiques qu'aux Paralympiques, avec tes médailles et tout ça, est-ce que le Canada est encore un pays bien respecté au niveau de la natation, avec des nageuses qui ont quand même fait des des scores incroyables?
Oui, non seulement avec les nageuses, autant du côté olympique que paralympique, là, même je dirais du côté olympique, les femmes qu'on a du côté olympique en ce moment en natation, c'est quasiment une anomalie. T'sais, on est tellement performant pour la population qu'on a, puis pour le développement qu'on a donné à ce sport-là culturellement. T'sais, on est un pays, on met de l'emphase sur les sports d'hiver, c'est correct.